élections et les grandes tendances. Et en septembre dernier, les recettes de la région, vous savez, moi je lève pas d'impôts, j'ai très peu de marge de manœuvre, les recettes de la région, c'est lié à la TVA. Il vous a pas échappé que le dynamisme économique, le contexte est extrêmement difficile, et donc la dynamique de la TVA n'est pas bonne. Donc forcément, c'est des recettes en moins pour la région. Et c'était moins 40 millions d'euros. Ensuite, je leur ai dit, écoutez, les tendances 2025 ne vont pas aller en s'améliorant. Donc j'ai dit à mes équipes, prévoyez pour l'année 2025 40 millions d'euros, plus 20 millions d'euros, donc 60 millions d'euros. À cela s'ajoutent les annonces de Michel Barnier, quand il arrive à Matignon et qu'il évoque la dette, qui n'est pas arrivée avec Michel Barnier, et malheureusement cette dette, elle n'est pas non plus repartie avec Michel Barnier, et qui annonce donc des efforts pour les collectivités, et pour la région des Pays de la Loire, c'était 40 millions d'euros. Donc au total, c'est pas un effet de zèle, c'est l'ensemble, c'est 100 millions d'euros d'économie que j'ai fait, parce que c'était 100 millions de recettes en moins. Et donc forcément, il faut faire des efforts.
C'est très clair, Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire. Mais une question tout de même, puisque maintenant on a un petit peu de recul, nous sommes au mois de juin, c'était la une de Libé dont je parlais, votre budget, c'était en décembre dernier que vous l'adoptez. Est-ce que vous avez déjà quelques regrets ou quelques remontées de terrain où vous vous dites là, peut-être qu'on n'aurait pas dû?
Très sincèrement, ça serait, je connais, vous savez, rien ne m'a été épargné pendant cette période. Ça a été extrêmement difficile. Deux unités de CRS, quand même, le jour du vote à la session. Des agressions vis-à-vis de ma majorité, de l'ensemble des conseillers régionaux. Ça serait à refaire. Je refais exactement la même chose. Parce que c'est une responsabilité que nous devons avoir. Ça suffit de mettre la poussière sous le tapis et de faire comme si de rien n'était. Donc, ça serait à refaire. Je refais exactement la même chose, encore une fois, pour préserver aussi les enjeux de la région, tels que l'investissement dans les lycées, les transports ou l'accompagnement du monde économique.
Donc à cette question de Vincent qui nous écrit depuis le Val d'Oise, s'il était démontré que vos coupes drastiques n'ont qu'un effet négatif sur votre région, reviendrez-vous sur les baisses de budget effectuées? Vous répondez non.
Je réponds non, et aujourd'hui, il n'y a pas de structure qui peut dire que c'est de la faute de la région. Alors, il y en a plein qui le disent, hein, mais par exemple, quand on intervient auprès de festivals de musique, et que l'intervention de la région représente 3% du budget global, et que le festival n'a pas lieu, soi-disant à cause de la région, je veux bien endosser beaucoup de responsabilités, mais ce n'est pas de la faute de la région. Et qu'à un moment, il faut aussi repenser à son modèle économique.
Peut-on appliquer votre façon de faire en matière de budget dans les Pays de la Loire, Christelle Morancet, au niveau du pays? Puisque vous le savez, le gouvernement cherche des milliards.
Oui, oui, et avant d'augmenter les impôts, il faut aller chercher des économies et à tout niveau. Et je pense que ce qui va être essentiel dans les semaines et dans les mois à venir, c'est que chacun reste dans ses compétences. Depuis quelques années, que ce soit l'État, les régions, les départements ou le bloc communal, tout le monde intervient sur tout. Si au moins il y avait de l'efficacité, mais ce n'est pas le cas. On le voit bien, notre pays aujourd'hui, j'ai envie de dire, est en déclin total. Est-ce que l'éducation va bien? On en parlait il y a un instant. Non. Est-ce que l'hôpital va bien et la santé? Non. Est-ce que la sécurité va bien? Non. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il faut repenser le modèle. Il faut surtout aller chercher des économies, parce qu'il y a des économies à faire partout. Et puis, ce qui est essentiel, c'est que chacun reste dans son niveau de compétence.
Alors justement, est-ce que pour vous, dans les compétences de l'État, il y a les aides aux entreprises?
Là, il y a une vraie question, parce qu'aujourd'hui, les aides aux entreprises, on va dire la compétence économique, l'État intervient, les régions interviennent, et puis les communautés de communes également, avec l'autorisation de la région, interviennent. Je pense qu'il faut aussi simplifier tout ça.
Simplifier ou supprimer ?
Mais aujourd'hui, on a besoin, vous savez, on est dans un monde de transformation, mutation, révolution, il y a des innovations. Je viens de passer deux jours au salon Vivatech à Paris, et il faut aujourd'hui qu'on pousse un maximum notre économie dans ces transformations et dans ces mutations. Donc oui, aujourd'hui, tant qu'on aura des impôts de production aussi forts, il faut qu'on accompagne nos entreprises. Si dans les réflexions, c'est de dire, on supprime tous les impôts de production qui pèsent sur la compétitivité de nos entreprises, à ce moment-là, il n'y a plus d'aide économique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité des choses. Et derrière nos entreprises, c'est aussi l'attractivité des territoires et c'est aussi l'emploi. Et ce qui doit être essentiel dans le contexte actuel, parce qu'on est vit quand même depuis un peu plus d'un an, depuis la dissolution, depuis la censure, tout est à l'arrêt en France, alors qu'on est dans un monde de transformation, notamment sur le numérique, notamment sur l'intelligence artificielle, notamment sur la robotisation et modernisation des chaînes de production. L'innovation, ça doit être essentiel. Moi, je me bats à la région pour que nos entreprises puissent innover et qu'on ne regarde pas les balles passées entre les États-Unis et la Chine.
Votre grand argument, Christelle Morançais, quand on vous reproche, et on vous le reproche, vous venez de le rappeler énormément, d'avoir supprimé toutes ces subventions, c'est qu'il y a d'autres moyens de financement que l'État, et notamment le mécénat. Est-ce que vous assumez, vous, par exemple, de demander à Pierre-Édouard Sterrin de financer ce que faisaient autrefois les collectivités ou l'État encore aujourd'hui, c'est-à-dire la culture, les associations, etc. Est-ce que ça, c'est pas plutôt au rôle du politique qui, lui, est élu ?
Mais il y a toute une polémique qui a eu lieu notamment à Nantes avec le bien commun qui est donc une organisation, c'est des fonds privés.
C'est une nuit qui s'appelle la nuit du bien commun, créée par ce milliardaire dont je parlais à l'instant, Pierre-Édouard Sterrin, l'inventeur de Smartbox, sympathisant de l'extrême droite, en mai 2025. Et vous êtes la seule collectivité partenaire de l'événement.
On était partenaire. Ça, c'était avant le vote du budget de 2025. Mais c'est quoi ce monde aujourd'hui qui critique aujourd'hui du financement privé pour accompagner les associations ? Et dans ces associations, il y a des associations qui sont toutes tendances politiques. À ma connaissance, lors de la nuit du bien commun à Nantes, il y a quelques jours, les associations qui sollicitaient des financements, il y avait des associations également de gauche. Donc de là à dire que Monsieur Sterrin est à l'origine et uniquement avec un enjeu d'extrême droite, non, il faut arrêter ces polémiques. Et moi, je suis favorable justement à avoir plus de partenariats, plus de liens entre le public et le privé. C'est ce que je fais sur des événements à la région, tels que le Big Bang de l'emploi, où il y a un accompagnement de la région, et j'ai également des investissements privés. J'ai le Région Pays de la Loire Tour, qui est une course cycliste qui sillonne l'ensemble de la région pour mettre en avant notre beau territoire, financement public et financement privé. Et je pense que c'est ça aussi de revoir nos modèles économiques. Et quand vous avez des partenaires privés qui sont là pour accompagner et financer des associations, eh bien moi je dis bravo et je félicite plutôt que de critiquer comme on peut l'entendre un petit peu partout.
Mais ce qui interroge, je pense, et on a eu pas mal de questions sur le sujet sur les réseaux sociaux, Christelle Morançais, c'est que vous, en 2022, vous quittez les Républicains parce qu'il n'y a pas de barrage clair contre Le Pen, Marine Le Pen, de ce qu'on a pu lire de vous. Donc, à la fois soutenir, enfin apporter son soutien, en tout cas comme collectivité, à ce milliardaire qui, lui, fait explicitement la promotion de Jordan Bardella ou Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ?
Mais la nuit du bien commun, Monsieur Sterrin n'est pas dans l'organisation. Il n'est plus dans l'organisation. Donc, mon combat, il restera ce combat, c'est le combat des extrêmes, à droite comme à gauche, RN et LFI. Et je ne change pas de cette ligne-là. Ce que j'accompagnais sur la nuit du bien commun, et j'ai pris des positions pour les défendre, c'est justement ce partenariat public-privé.
Il est cofondateur, il est exilé fiscal depuis 2012 en Belgique. Il ne se rend pas aux commissions d'enquête quand il est convoqué au Parlement. Pour vous, ça, c'est des valeurs compatibles.
Mais je ne partage pas tout avec M. Sterrin, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer aujourd'hui.
Parle de vous comme d'une licorne de la politique française.
Oui, mais j'ai eu l'occasion, vous savez, avant de critiquer les hommes ou les femmes, il faut les rencontrer. Et moi, j'ai un bon souvenir de cette rencontre. C'est un homme qui a réussi, qui a eu aussi des échecs, et ça, on n'en parle pas beaucoup en France. Et grâce à ses échecs, il a avancé. Aujourd'hui, il est milliardaire. Mais on peut être fier aussi de voir ses réussites. Et ça, c'est ce qu'on doit montrer aussi à notre jeunesse. Moi, je regarde toujours vers le haut, je regarde toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et on a cette fâcheuse habitude en France de critiquer des initiatives qui vont dans le bon sens. Après, je ne suis pas d'accord sur tout, mais il y a un moment, c'est juste un peu de respect aussi pour cet homme.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villaine.
Je suis quand même un petit peu inquiet parce que elle est toute récente dans la politique. J'espère qu'elle sera de taille à supporter cette tâche, quoi. Mais c'est tout. Hein. Et là, je l'ai sourire. C'est pas suffisant.
Ça va vite. Hein. Je pense qu'elle monte bien vite et grimpe bien vite. On verra. On verra.
Est-ce que c'est celle qui était dans l'immobilier, moi?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Bah, elle peut faire ses preuves. Hein.
Moi, je suis pas contente.
On va lui souhaiter que ça marche bien, qu'elle nous défende bien.
Un reportage du 19-20 sur France 3, édition Pays de la Loire, le 8 septembre 2017. Vous dites que vous n'aimez pas être réduite au fait d'être une femme en politique, que vous voulez qu'on vous juge sur les engagements, mais parfois ça revient.
Oui, parce que elle a un joli sourire, comme je viens d'entendre dans le reportage. Je suis pas sûre qu'on dise ça d'un homme. Il y a quand même encore beaucoup de travail à faire en France à ce sujet.
Vous l'avez vécu, vous, en politique, le sexisme, Christelle Morançais ?
Oui, c'est pas simple. On est jugé sur notre tenue, sur notre physique, et pas sur nos compétences. C'est difficile. Et puis peut-être aussi cette approche qu'on peut avoir. On a une approche complètement différente. On se pose beaucoup de questions. Moi, je me permets de dire, il faut que les femmes aussi, elles s'engagent. Et c'est pas toujours le cas. Un homme. Moi, si je prends mon cas personnel, quand Bruno Retailleau, par le cumul des mandats, devait faire le choix entre le Sénat et la région des Pays de la Loire, et puis il me reçoit dans son bureau pour me dire que mon nom ressort pour prendre sa suite, n'importe quel homme aurait dit oui sans se poser de questions. Et là, j'étais surprise. Et je lui ai dit, il faut que je réfléchisse, parce que j'avais mes enfants qui ont 16 et 18 ans aujourd'hui, mais qui avaient 8 ans de moins à l'époque, mon engagement à l'époque pour Le Mans, et puis la cohésion aussi de l'ensemble de la majorité régionale. Et puis je me suis posé plein de questions pendant 3 jours. Le matin, je me levais en me disant, oui, c'est bon, j'y vais. Le soir, je me couchais, je disais, non, j'y vais pas. Et puis mon mari m'a vraiment boostée, quoi. Et parce que je me posais des questions, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis capable, etc. Et un homme ne va pas se poser toutes ces questions-là. Et donc, moi, si je peux faire passer un message aux femmes qui nous écoutent, vous posez pas de questions. On est autant capable que les hommes. Moi, je crois beaucoup aussi dans cette complémentarité entre les hommes et les femmes. Mais j'ai envie de dire aux femmes, allez-y, osez, foncez, que ce soit en politique, dans les associations, dans les entreprises, prendre aussi les directions, les grandes directions générales. Et on en a trop peu de femmes aux grandes directions générales. Donc, il y a toute une place à avoir pour les femmes. Et je trouve qu'on a une approche aussi différente.
Alors en 2017, c'est le micro-trottoir qu'on vient d'entendre et vous venez de nous raconter un peu les coulisses, Christelle Morançais. Vous êtes donc élue au sein du Conseil régional puisque Bruno Retailleau va au Sénat, conserve son poste de sénateur, de président du groupe LR au Sénat. Vous étiez déjà vice-présidente à la région, mais elle n'est pas du tout évidente cette élection en interne puisque au départ, avant que vous soyez élue devant le Conseil régional, puisqu'il y avait deux concurrents de taille face à vous au sein du groupe pour être candidat à la présidence du conseil régional, l'ancien directeur de cabinet de François Fillon, François Pinte, et l'ancien député vice-président de la région, Paul Janteau. Et c'est finalement votre nom qui sort du chapeau face à ces deux poids lourds locaux. Au terme d'une réunion qu'on dit houleuse avec Bruno Retailleau, que s'est-il passé dans cette salle du conseil régional ?
Oui, assez houleuse, non, je dirais pas ça. C'est honnêtement, même avant l'été, moi je sortais d'une législative, où les législatives de 2017, je venais de perdre à 48 voix, donc c'était un moment assez difficile, un engagement auprès de Bruno Retailleau au sein du Conseil régional depuis 2015. Je me posais quand même pas mal de questions, et les équipes de Bruno m'appellent en me posant quelques questions, t'en penses quoi, si c'est un tel ou un tel, et je dis mais c'est pas un tel ou un tel, c'est que Bruno doit rester à la tête de la région. L'été se passe, on partage le même lieu de villégiature avec Bruno Retailleau, on se croise absolument pas pendant cette période, c'est l'île-Dieu, c'est un lieu magique où je peux me ressourcer, et puis j'arrive en septembre et Bruno m'annonce ce choix qui a été un choix aussi de l'ensemble de la majorité. Donc il n'y a pas eu de débat ou quoi que ce soit, mais en effet il y avait deux candidatures. Moi je n'étais absolument pas candidate. C'est un petit peu d'ailleurs tout mon parcours politique.
Eh bien on va y venir. Exactement, j'allais dire c'est exactement votre histoire politique puisque vous n'étiez pas du tout au début dans la politique à part comme militante sympathisante à l'UMP. Je le disais en introduction, mais c'est vrai qu'on vient vous chercher aussi en 2014 au Mans dans la Sarthe où la droite locale se disloque, en tout cas ça a l'air très compliqué, et vous faites campagne de manière très tardive et vous perdez à 1500 voix près. Au point qu'une des responsables locales dit « on a senti la dynamique, plus ça passait, elle a perdu sur un fil, on a fait une campagne incroyable ». Vanessa Charbonneau et l'ULR engagée à vos côtés.
Oui, c'est une campagne extraordinaire. C'est tout le début de ma carrière politique, j'ai envie de dire. Ça a été... je pars 6 semaines avant le premier tour, un truc de dingue. Enfin, c'est... Jamais je pensais un jour faire même de la politique. On m'appelle pour être tête de liste 6 semaines avant le premier tour. C'est un peu comme si vous avez une piscine, on vous pousse dans cette piscine, vous savez pas nager, vous avez pas de brassard. Avec des moments extrêmement difficiles. Moi, j'ai le souvenir du premier débat, j'avais pas de programme, j'avais pas de projet. Je me vaux totalement. Puis paf, je remonte tout de suite parce que je suis une combattante, je suis une guerrière et je lâche jamais et ça a été une campagne qu'on a vu monter crescendo extraordinaire. Et puis c'est les débuts en politique, puisque après cette campagne qui a été extrêmement serrée, Bruno Retailleau m'envoie un petit message de félicitations, puis à l'époque il n'était pas connu comme aujourd'hui, je googlise c'est qui Bruno Retailleau et tout, et puis c'était les prémices justement des élections régionales. Mais tout ça pour dire moi j'ai pas de plan de carrière en politique, et même aujourd'hui, vous voyez, je suis à la tête de la région depuis 8 ans. Mon nom a souvent circulé pour des postes ministériels à chaque remaniement, etc. Non, j'ai pas envie d'être ministre. Je suis très bien à la tête de cette région. J'ai vraiment une affection pour cette région. Et surtout, je suis pas là en train de calculer. J'ai fait autre chose avant de faire de la politique. Je ferai certainement autre chose après. C'est un moment donné de ma vie que je donne. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des voies qui se sont ouvertes, que j'ai saisies. Et c'est, voilà, c'est mon parcours. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui me donne aussi la force, parce que ça me donne aussi beaucoup de liberté et surtout beaucoup d'engagement, et ça permet aussi d'avoir du courage, parce qu'il faut avoir du courage pour faire de la politique.
Et puis ensuite, il y a les législatives de 2017 où vous vous présentez juste avant, en fait, d'être élu à la région, à la tête de la région, et là vous perdez au second tour face au candidat En Marche à 56 voix près.
48 même.
Ah pardon, on s'est trompé de chiffre. 48 voix près. C'est comment on gère ce genre de
défaite ? Ouais, je vous disais, ça c'était difficile. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai fait vraiment une campagne, comme ce qui m'anime hein, depuis le début, je fais de la politique de terrain, de proximité. Et puis j'avais déjà prouvé et œuvré au sein de la région, notamment au niveau de l'apprentissage, de la formation, de l'emploi. Et je l'ai pris, ça a été un échec. Ça a été un échec, mais il faut toujours se servir de ces échecs pour pouvoir rebondir. Et donc je suis remontée, j'ai envie de dire, sur mon cheval aussitôt. Et puis ça a permis de construire tout mon parcours par la suite. Donc, dans la vie politique comme dans la vie en général, bah, vous avez des réussites, mais ça, vous avez tendance à les oublier. Et puis, les échecs, c'est ce qui vous fait aussi avancer.
Quand vous avez entendu, au même moment, peut-être un peu avant, Jean-Luc Mélenchon dire qu'il a perdu à 400 000 voix près la présidentielle, enfin le second tour, ça a dû vous faire tout drôle, non ?
Oui, oui.
Quand on perd à 48 voix près, je veux dire.
Oui, enfin, qu'importe, chacun a son parcours, chacun a ses décisions, mais encore une fois, les échecs font avancer. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important et qu'on doit avoir aussi dans la culture française et qu'on n'aime pas beaucoup mettre en avant.
Vous dites que vous ne voulez pas être ministre, vous avez refusé le poste que vous proposez à Michel Barnier.
Oui, oui, je vous le disais, mon nom a beaucoup circulé à chaque remaniement ministériel, mais on m'a proposé une seule fois, et c'est Michel Barnier, en septembre 2024, et j'ai refusé parce que ça a toujours été ma ligne. Aujourd'hui, je suis à mi-mandat, un petit peu plus de mi-mandat au sein du conseil régional. C'est un mandat extraordinaire, j'ai eu la chance d'être à la tête d'une région extraordinaire, la plus belle région de France, et puis encore plein de projets à porter. J'ai un engagement aussi vis-à-vis des électeurs qui m'ont porté à la tête de cette région. Et puis c'est ce qui m'anime. Vous savez, moi j'ai deux mots qui m'animent au quotidien, c'est aimer et agir. Et je pense que pour faire de la politique, il faut vraiment avoir l'amour pour les hommes et les femmes qui font le territoire, et puis l'action. Et ça, je pense que depuis notre échange tout à l'heure, vous l'aurez compris, c'est ce qui me guide aussi au quotidien.
Donc si Édouard Philippe, que vous soutenez en tant que vice-présidente de son parti, et remporte la présidentielle, devient président de la République, vous accepterez un poste ministériel au sein de son équipe ?
Il faut déjà qu'il gagne l'élection présidentielle. En tout cas, je suis à ses côtés pour faire en sorte qu'il soit justement sur ses fonctions.
Et c'est pas gagné, vous voulez dire ?
Mais chaque élection n'est jamais gagnée. Mais en tout cas, si j'ai rejoint Édouard Philippe, c'est justement pour ça. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. Et puis un vrai homme d'État avec une vraie posture, que ce soit à l'international ou national, avec une approche aussi différente où on se retrouve beaucoup. C'est le terrain. Il fait beaucoup de terrain. C'est un de ses premiers déplacements, c'était dans ma région. J'aime beaucoup cette phrase, c'est petite bouche, grandes oreilles. Justement, pour être à l'écoute aussi. Vous savez, quand on aspire à cette fonction, je pense que c'est important de sentir la France, de les écouter, et puis du regard long, vous voyez, avec des propositions, avec un regard sur du moyen et long terme, et ça on l'a un petit peu perdu en politique, on est plutôt sur l'immédiateté.
Mais si Bruno Retailleau était lui aussi candidat en 2027, est-ce que vous ne serez pas, vous, Christelle Morançais, un peu tiraillée entre deux fidélités ?
J'ai beaucoup d'amitié pour les deux hommes, que ce soit pour Bruno ou pour Edouard. Maintenant, j'ai rejoint Horizon, j'ai rejoint Edouard justement pour 2027. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'en 2027, il n'y ait qu'un seul candidat. Et donc, je souhaite cette unité la plus large possible, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter les extrêmes. Et puis, quand on est capable de se rassembler et s'unir, et je pense que c'est aussi une volonté des Français, on peut faire un beau et grand projet pour la France.
Mais qui entre les deux ?
Ah, mais Edouard Philippe. Enfin, je me suis engagée. Si j'ai rejoint Horizon, c'est pour Edouard Philippe.
Mais il semble pas du tout avoir envie de rallier Edouard Philippe, Bruno Retailleau.
Pour l'instant, je ne sais pas s'il est candidat. C'est à lui de le dire. Et puis encore une fois, il y a deux ans.
Une question de Franck qui nous écrit sur Instagram d'eux-mêmes. Vous allez voir, elles sont liées. Edouard Philippe devrait-il plus communiquer sur ses idées et son programme ?
Mais c'est ce qu'il fait. On l'entend plus sur les médias. Alors après, moi, je partage totalement, vous savez, de l'entendre matin, midi et soir et de surréagir sur les faits divers ou sur toute l'actualité. C'est pas son rôle.
C'est le rôle de Bruno Retailleau.
Mais aujourd'hui, Edouard Philippe travaille pour un projet pour la France. Il fait du terrain, il va à la rencontre des Français, comme je vous le disais. Moi, je suis dans le parti depuis un an et demi et ça travaille. Chaque secrétaire national, on a remis une note sur nos thématiques. Fin mai, il y a des concertations aussi avec l'ensemble des acteurs. Moi, je suis en charge de l'économie et de l'industrie. Je rencontre des personnalités au quotidien. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, c'est le travail d'Edouard. Et on n'a pas à l'entendre sur tous les sujets. Par contre, il a des paroles fortes, comme il a pu l'avoir ces derniers jours. Et je pense que c'est important. Et puis, il a écrit un livre avec des mots forts, avec ce discours de vérité. Et je pense qu'on le doit aussi aux Français.
Et la deuxième question de Franck sur Instagram, quelle est la différence entre Horizon, LR et Renaissance ?
Eh bien, l'objectif, c'est que ces trois partis s'unissent. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à l'époque de l'UMP. J'avais d'ailleurs rejoint l'UMP pour ça. Il y avait plusieurs sensibilités au sein de l'UMP. Une droite plus conservatrice, une droite plus sociale, une droite plus libérale, etc. Eh bien, je pense que là, on a cette représentation. Donc, l'objectif, c'est de s'entendre aussi sur un projet collectif. Et ça, moi, j'aurais souhaité qu'en 2022, DLR jusqu'à Renaissance, qui est en passant par Horizon, qu'on ait des propositions concrètes pour le pays. Et justement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, il y a une responsabilité, bien évidemment, des LR, mais également du président de la République qui n'a pas tendu la main.
C'est-à-dire pas tendu la main ?
Il n'a pas tendu la main...
Avant 2022, vous voulez dire ?
À l'époque de 2022, au moment des élections présidentielles. Et aujourd'hui, moi, je crois dans l'unité, je crois dans le rassemblement, encore une fois. L'intérêt général doit porter sur l'intérêt individuel.
Donc, jusqu'à Gabriel Attal, en fait, un candidat unique.
Ah mais bien sûr, ça va DLR jusqu'à Gabriel Attal, et bien évidemment tout ça pour autour d'Edouard Philippe.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole.
Je vole, interprété par la chanteuse Louane dans la bande originale du film La Famille Bélier, réalisé par Éric Lartigot en 2014. Et ça vous fait pleurer, Christelle Morançais ?
Oui, en l'écoutant, vous voyez, j'ai encore plein d'émotions. Plein d'émotions parce que là, c'est une touche très personnelle. Je suis présidente de région, mais je suis avant tout maman. Et cette chanson, c'est en septembre 2024, mon fils aîné, Paul, je l'ai accompagné aux États-Unis puisqu'il fait ses études aux États-Unis. C'était la première année, donc il partait. Donc c'est mon fils aîné qui part et c'était difficile. Et j'ai un de mes amis qui me dit, écoute, au retour, parce que la séparation était dure, donc au retour, il me dit, tiens, écoute cette chanson-là. Il me dit, tu l'écoutes en boucle. Et j'ai pleuré pendant tout le trajet en voiture, tout le trajet en avion, parce que j'ai, voilà, mes enfants, c'est mon engagement en politique. c'est je suis très proche d'eux et puis c'est ce qui voilà, c'est ce qui fait vraiment mon engagement. Et encore une fois, il y a la présidente de région et puis il y a la mère de famille que je suis. Il faut pas l'oublier parce que on a tendance voilà à caricaturer ou à critiquer aussi les politiques, mais derrière il y a aussi un homme ou une femme avec une famille. Et mes enfants, vous voyez, pendant toute la période du budget, c'était difficile aussi pour eux, que ce soit dans leur lycée, mais même Paul qui était à l'étranger, qui recevait des messages, etc. Et ça, faut pas l'oublier. Donc moi, j'essaye de les protéger. J'ai une relation toute particulière. J'échange beaucoup avec eux. Et puis, ils m'inspirent notamment sur des actions, sur des choses à faire. Et voilà, c'est toute ma vie.
Pourquoi vous dites que ce sont vos enfants, votre engagement en politique ?
Parce que si je me suis engagée en politique, comme je vous l'ai dit, j'ai fait autre chose avant de faire de la politique. C'est pour changer les choses.
Pour eux, vous voulez dire, et leur génération ?
Pour eux, pour leur génération. Vous savez, quand on fait de la politique, on prépare l'avenir. Et c'est vraiment tout le sens de mon engagement. Donc, et puis, ils me donnent vraiment la force, la détermination au quotidien. Et puis, ils sont pleins de ressources. On l'évoquait tout à l'heure. Oui, il y a des jeunes qui vont pas bien, la santé mentale, etc. Mais il y a toute une génération aussi qui a envie de s'engager, qui est déterminée. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à renouer le dialogue avec la jeunesse. Ça a été de toute manière, quelles que soient les générations, des incompréhensions ou quoi que ce soit. Une génération, moi, mes grands-parents, forcément, on n'était pas spécialement en phase où on n'était pas issus d'une même génération. Mais avec la jeunesse, je pense que faut qu'elle nous inspire, faut vraiment recréer ce sens du dialogue et puis d'avancer main dans la main. Moi, je crois beaucoup à ce côté intergénérationnel et on a une jeunesse extraordinaire.
Qu'est-ce qui est le plus dur en politique, Christelle Morançais ?
Le plus difficile, c'est les moments que vous passez pas avec vos proches. Vous voyez, moi, je suis partie de chez moi lundi dernier. Je rentre ce soir très rapidement parce que je suis prise aussi tout le week-end. Donc c'est les moments que vous passez pas avec eux. Et donc ça c'est difficile. Mais pourtant j'essaie. Et ça depuis le début de mon mandat de présidente de région, d'avoir cet équilibre entre mon engagement politique et ma vie personnelle. Et donc des moments aussi que je passe avec eux, et mes équipes le savent, totalement consacrés à eux.
Une question d'Antoine en Seine-Saint-Denis. En ce mois de Pride, comment vous positionnez-vous sur les sujets LGBT ?
Écoutez, moi je suis très à l'aise sur ce sujet. J'ai eu des attaques pendant la campagne des élections régionales ou sur les réseaux sociaux.
Parce que vous étiez opposée, vous, au mariage pour tous.
Voilà, mais je vais y revenir. Et donc, on m'attaque régulièrement en disant que je suis homophobe. Je viens de vous dire, j'ai deux garçons. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et voyez, ça, c'est des sujets que j'évoque aussi avec eux. Et c'est vrai que...
Donc vous soutenez les causes LGBT pour répondre à Antoine ?
Bien évidemment, et qu'aujourd'hui, il faut avoir cette ouverture. Et j'ai fait, en effet, la manif pour tous à l'époque, et ça sera à refaire aujourd'hui. Je pense que je le ferai pas. Je pense que à l'époque, la droite, on a raté aussi ce moment d'union entre deux hommes ou entre deux femmes. Et oui, je le regrette, mais en tout cas, j'ai des amis autour de moi qui sont homosexuels et il n'y a aucun sujet. Mais on doit les accompagner. Et encore une fois, c'est le côté d'être tous unis et d'arrêter ces divisions des uns et des autres.
Merci Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire et vice-présidente du parti d'Édouard Philippe Horizon, d'être venue dans cette émission. Vous pouvez la réécouter comme tous les autres épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France à la page Sens Politique. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui s'interrogent sur le choix de nos invités que nous respectons chaque semaine les règles de l'ARCOM qui imposent le pluralisme en fonction des forces politiques représentées au gouvernement et au Parlement, y compris hors période électorale. Merci à Léa Varin qui m'a aidé comme chaque semaine à préparer minutieusement cette émission, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay et à la vidéo Jordan Fuentes. Merci à vous toutes et tous qui nous envoyez vos questions chaque semaine et à samedi prochain.
Vous écoutez France Culture.
On
a besoin de vous, nous allons sauver nos paysages, ceux qui disparaîtront peut-être dans quelques décennies.
Expérience Aurélie Charron.
Enregistrez-vous en message vocal, choisissez un lieu bien précis qui vous est cher, décrivez tous les détails que vous voyez, laissez libre cours à vos pensées et dites-nous où se situe le lieu, votre nom, votre prénom. Envoyez-nous le message vocal au 06 01 01 33 53.
Que révèle une œuvre quand un autre regard la reproduit ? Des artistes contemporains choisissent des chefs-d'œuvre du Louvre pour les copier à leur manière. Un jeu de reflets, de détournement et de récréation. Une exposition qui bouscule notre regard sur l'original, la mémoire et l'acte de création. Copiste jusqu'au 2 février 2026 au Centre Pompidou Metz. Une exposition France Culture.
La semaine prochaine, je reçois le député socialiste Jérôme Guedje. Envoyez-lui vos questions à cette adresse, senspolitique@radiofrance.com. Et à 13h30 sur France Culture, vous avez rendez-vous, comme chaque samedi, avec le premier épisode de l'Histoire particulière du week-end.
J'ai vu le jour à Tenerife. Et la nature, par œuvre merveilleuse, couvrit de fourrure tout mon corps. La France aussi, mon autre mère, a nourri mon enfant jusqu'à l'âge exemplaire d'homme et loin de la vie sauvage m'a donné d'apprendre tous les arts qui libèrent l'esprit et de faire en ma bouche le latin raisonné. Il advint que les dieux, en cadeau de grand prix, me firent épouser une très belle femme et des enfants naquirent, fruits de notre amour. Il t'est ainsi permis de voir qu'en grande dame, la nature nous a fait des cadeaux chaque jour. Certains de mes enfants sont, grâce à leur beauté, l'image, le reflet, le portrait de leur mère. Les autres sont dotés d'une pilosité qu'ils ne sauraient tenir d'un autre que leur père. Pedro González, fils adoptif du roi de France, né aux îles Canaries. Inscription présente derrière un tableau de Joris Hofnagel représentant Pedro González.
Les Gonzalvus, splendeur et misère du poil. Épisode 1, le sauvage d'Henri II. Un documentaire d'Hélène Carbonel, réalisé par Laurent Polleret. Bonjour Bastien Lopez, vous êtes conservateur au musée de Blois où on se trouve aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que Pedro González arrive en France ?
Alors Pedro, il arrive en France en 1547. En fait, il y a un cadeau de la couronne d'Espagne à la couronne de France. Ça fait suite en fait aux campagnes militaires espagnoles qui s'approprient les îles des Canaries. Il s'approprie les îles, mais en fait, il capture aussi des personnes. Et Pedro González, qui est très jeune à cette époque-là, se caractérise déjà par cette hypertrichose, donc cette maladie qui fait qu'il est couvert de poils. Et donc, il apparaît comme un objet particulier, particulièrement curieux et intéressant. Et donc, en fait, comme un cadeau diplomatique assez rapidement.
Est-ce que c'est fréquent que des monarques s'offrent des cadeaux comme ça ?
L'histoire de l'Europe, c'est aussi une histoire diplomatique entre les cours européennes à cette époque-là, et c'est avec une politique diplomatique où on cherche à impressionner son voisin. Et donc, c'est à qui fera le cadeau le plus impressionnant, le plus marquant, le plus cher aussi. Généralement, c'est des objets. Ça peut être des œuvres d'art, des vases, des tapisseries, des tentures complètes. Et puis, parfois, c'est aussi des personnes, des objets plus particuliers qui sortent de l'ordinaire, puisque voilà, on cherche à impressionner, à démontrer son pouvoir, mais on cherche aussi à surprendre.
Denis Crouzet, vous êtes historien des guerres de religion. On sait que Pedro González est offert en cadeau à Henri II. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est perçu par ses contemporains à ce moment-là ? Et quel est le sens qu'on peut donner à ce cadeau ?
Il est très troublant quand il est envoyé par Charles Quint comme cadeau pour l'arrivée sur le trône d'Henri II, après la mort de François Ier. Il a ce que les contemporains appellent une apparence velue, un pelage en quelque sorte. Dans certains textes, ce pelage est comparé à celui d'un chien ou d'un singe. Il appartient à l'ordre de ce que l'on appelle au XVIe siècle les mirabilia, ces objets ou ces créations de la nature extraordinaires qui n'ont jamais été vues. Et il faut comprendre alors le cadeau de Charles Quint. Il distingue ce roi qui est le fils de son adversaire, François Ier, qu'il a écrasé à Pavie, mais qui a recommencé la guerre contre lui pour le contrôle de l'Italie, c'est-à-dire pour la dimension impériale de son pouvoir. Ce cadeau est un cadeau donc qui s'apparente à d'autres cadeaux qui étaient faits pour les débuts de règne ou pour exprimer la grandeur de celui avec lequel on était en relation. On voit par exemple en 1487 Laurent le Magnifique recevoir du sultan d'Égypte une girafe. Donc des cadeaux qui peuvent être donc des cadeaux animaliers mais aussi humains. Avec, en 1547, le roi de Pologne, au même moment où Charles Quint envoie Pétrus au roi de France, le cadeau de deux nains. Alors, faut essayer de comprendre qu'est-ce que Charles Quint a voulu dire, parce qu'il envoie l'extraordinaire, le jamais vu, une sorte d'hybride de l'animal et de l'homme, et il s'agit sans doute pour lui de rappeler à Henri II, le fils de son adversaire, que il est le maître d'un empire extraordinaire, l'empire des Indes occidentales, et que cet empire est providentiel pour lui. Donc, dit son autorité d'empereur, et il s'agit de défier en quelque sorte Henri II dès l'origine, en disant que son pouvoir est un pouvoir dans lequel il y a les merveilles de Dieu, l'extraordinaire, et là, il en témoigne. C'est un peu provocateur, je pense, symboliquement, d'envoyer cet individu et qui a ce pelage sur lui, sur le visage.
Il est très beau, mais entièrement velu sur le visage. Les poils sont longs, d'environ 5 doigts, presque 10 cm, et sont beaucoup plus rares sur les bords du visage. Ils sont d'un blond clair, très fin et délicat, comme la fourrure d'une marthe zibeline. Et ils sentent bon. 1547, lettre écrite par Giulio Alvarotto, ambassadeur du duc de Ferrare à la cour d'Henri II.
Myriam Marajourou, vous êtes professeure de littérature du XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il emploie la comparaison avec une marthe zibeline ? Est-ce qu'il veut signifier que Pedro est le favori d'Henri II ?
Oui, il va rentrer à la cour avec ce statut d'objet rare, d'objet exotique aussi, puisqu'il est parmi les animaux exotiques. Et puis en fait, on ne va pas le faire dormir avec le léopard ou le dromadaire. On va finalement l'adopter, c'est un jeune enfant. Et il va être élevé avec les enfants de la cour de France. Donc vêtu, avec des habits magnifiques, éduqué, on lui apprend le latin, on lui donne toute l'éducation qu'on donne aux enfants de France, aux enfants de la maison royale. Donc c'est tout à fait exceptionnel et c'est en cela qu'on ne peut pas le considérer comme un monstre. Enfin, on voit bien qu'on ne le considère pas comme un monstre, comme un être à l'apparence bizarre, mais sur lequel on va en quelque sorte tester son humanité, au sens où une bête ne pourrait pas apprendre le latin. Pedro peut apprendre le latin, c'est donc un humain, c'est ce qu'on comprend. Donc il est éduqué, il apprend les arts libéraux, enfin toutes les disciplines du savoir de l'époque lui sont enseignées et il s'en sort très bien, il est très brillant. Voilà. Donc c'est un enfant bizarre par son apparence, mais tout à fait intégré à la cour de France parmi les enfants de la maison royale.
Il apprend. C'est un réceptacle de la culture de son temps. On ne sait pas grand-chose, mais en tout cas, cette culture est suffisamment avancée pour qu'il soit, après avoir été huissier de la chambre du roi, c'est-à-dire celui qui ouvre le premier la porte du roi le matin, qui est le premier à lui avoir accès. Ensuite, il est lecteur du roi. C'est lui qui lit les livres au roi et ce sera poursuivi sous le règne de Charles IX, le fils d'Henri II. Donc, ce qu'il aurait pu être est complètement transformé par l'attention que prêtent Henri II, Catherine de Médicis et Charles IX à cet enfant devenu adulte, comme s'ils avaient essayé de répondre à Charles Quint, la Mirabilia. C'est le roi de France qui l'a créé, en transformant cet être venu à l'état brut, en quelque sorte, en un homme de cour, un savant. J'ai été surpris, même en retrouvant dans un article des actes notariés, celui qu'on appelait le sauvage. Le sauvage, dans les textes, visiblement, est devenu plus civilisé que beaucoup de civilisés, voyez.
Pétrus est offert en cadeau, du coup, qu'est-ce que ça nous dit du point de vue de son statut juridique?
En fait, c'est là que c'est ambigu et c'est là que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il est offert comme on aurait pu offrir une tapisserie, en gros. Mais Pedro, c'est un être humain qui est doué de parole, qui appartient à la maison du roi, qui a une charge, en fait, à la cour. Donc le statut juridique, il est un peu entre les deux. C'est entre l'homme et la chose. Et c'est ça, en fait, qui est terrible, parce que les Gonzalez vivent dans des conditions de vie qui sont absolument remarquables, avec, ils sont logés, ils sont nourris, ils vivent très bien, mais simplement, ils vivent très bien à la condition d'être considérés publiquement comme des choses et de ne pas avoir de liberté, de ne pas avoir d'état civil, en fait, peut-être même.
Moi, je me suis permise de parler de Petrus Gonzalvus ou de Pedro Gonzalez. Vous, vous parlez de Pedro Gonzalez uniquement. On a pu l'appeler Don Pietro, Don Petro ou Pierre le Sauvage, Pierre le Salvège. Qu'est-ce que ça nous dit, ces différentes appellations, pour parler de la même personne?
Les différentes appellations de Pedro Gonzalez ou de Pierre le Sauvage ou de Petrus Gonzalus sont très très intéressantes parce qu'elles montrent des appropriations. En fait, à l'époque, selon l'endroit où il a été admis, adopté, accueilli, on l'a renommé, en fait. On l'a renommé, on lui a donné de nouveaux noms. Alors apparemment, il arrive des Canaries où on parlait espagnol, en tout cas. Donc Pedro González, c'est la première appellation, c'est celle que j'utilise le plus couramment. Mais son nom a pu être latinisé, Petrus Gonzalus, ou Gonzalvus, parfois on trouve aussi ça. Et Pierre le Sauvage, c'est encore autre chose, parce qu'on perd Gonzalez dans l'histoire. On a perdu le patronyme, donc. Mais on lui a accolé une sorte de sobriquet. Je sais pas, le Sauvage, bon, ça montre qu'il y a une certaine vision de ce jeune homme. Et à la fois, c'est la marque d'une sorte d'adoption aussi, parce que Pierre, ben, c'est la francisation de Pedro. Donc c'est le moment où il est en France qu'on l'appelle Pierre le Sauvage. Et après, il va encore rechanger. En fait, ça, c'est vraiment l'appropriation... première, hein, c'est-à-dire quand vous accueillez quelqu'un, quand vous le rebaptisez, c'est bien le signe que vous le redéfinissez, quoi, d'une certaine façon. Donc c'est très intéressant de voir aussi, il a été appelé Don Petro, Don Pietro, et donc le don aussi, qui est la marque de la noblesse, c'est une sorte d'oxymore, hein, c'est-à-dire certains le traitent de sauvage et d'autres lui apposent une marque de noblesse. Donc c'est très étrange, hein, et on voit que selon le regard et selon l'appellation qu'on va lui donner, eh bien ça signifie effectivement qu'il y a un regard différent sur sa personne.
Plusieurs ont cette folle opinion que ces gens que nous appelons sauvages, ainsi qu'ils vivent par les bois et les champs, à la manière presque des bêtes brutes, être pareillement ainsi pelu par tout le corps, comme un ours, un cerf ou un lion. Bref, pour décrire un homme sauvage, ils lui attribueront abondance de poils, depuis le pied jusqu'en tête, comme un accident inséparable, ainsi qu'à un corbeau la noirceur. André TV, Les singularités de la France antarctique, 1557.
Denis Brunat, vous êtes historien de l'art et vous avez imaginé l'exposition Cheveux-Poils au Musée des Arts Décoratifs en 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le statut du poil au XVIe siècle et comment Petrus a pu être perçu par ses contemporains?
Alors Petrus, à la différence des hommes du XVIe siècle, il n'était pas seulement barbu, il était entièrement couvert de poils. À la fois lui et ses enfants étaient associés aux animaux, aux hybrides, c'est-à-dire des êtres qui étaient moitié homme, moitié animal, et plus encore, c'est le terme qui revient souvent à cette époque pour les définir, à des sauvages. Et d'ailleurs, Gonsalvus père était appelé le sauvage du roi, le sauvage d'Henri II. Et d'ailleurs, dans le portrait d'Antonietta Gonsalvus, celui qui est conservé au château de Blois, il est précisément dit sur la lettre que la jeune fille tient de ses mains et qu'elle montre, il est dit précisément sur cette lettre qu'elle est la fille de Pietro et qui est dit homme sauvage découvert aux îles Canaries. Mais les Gonsalvus, ce qui est aussi très intéressant, étaient surtout classés parmi les animaux. En tout cas, ils étaient associés au monde animal. Et il y a différents témoins de l'époque. Il y en a un qui dit que, par exemple, que le père, donc Pietro Gonsalvus, avait une fourrure de martre. Dans un autre texte, on dit qu'il était poilu comme un chien. Et la petite fille, Antonietta, dans un texte qui accompagne un dessin qui la représente, on dit qu'elle avait une tête de singe. Donc il n'y a rien, si j'ose dire, d'étonnant pour ce XVIe siècle, puisque c'est une époque où la distinction entre les humains et les animaux était très souvent remise en cause. Vous savez, on croyait même à cette époque à un groupe d'êtres vivants dans lequel on rangeait à la fois les singes, les créatures hybrides, pas seulement les sirènes et les centaures auxquels on pouvait croire, mais aussi des êtres qui seraient nés des suites d'un accouplement entre un humain et un animal. Un tel accouplement qui était bien sûr vu comme un acte de la plus grande bestialité par l'Église, qui était très puissante. Mais il est fort vraisemblable de penser qu'à cette époque, cette famille était classée parmi les animaux, les sauvages, les créatures hybrides. Tout dépend, je dirais, comment on pouvait les voir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Gonsalvus, par sa pilosité excessive, venait brouiller les pistes entre la distinction entre l'homme et l'animal.
Il va devenir sommelier de la panetterie Bouche. Qu'est-ce que c'est ce métier et qu'est-ce que ça nous dit encore une fois de son statut ?
Sommelier de la panetterie Bouche, c'est une fonction qui consiste à servir à la table du roi lors des grands dîners, des grands banquets. Et c'est une fonction qui n'est pas offerte à tout le monde parce qu'il faut pour cela avoir la confiance évidemment du monarque dans la mesure où on s'approche au plus près de sa personne et de ce qu'il va manger. Donc évidemment qu'on ne peut pas confier cette fonction-là à des gens pour qui on a de la défiance ou dont on a peur qu'ils nous empoisonnent ou je ne sais quoi. Donc c'est une marque de confiance, une marque honorifique et c'est aussi une occasion pour le roi de l'exhiber. Lors des dîners, lors des repas, ça devait avoir un effet extraordinairement étonnant et surprenant de voir un tel serviteur s'approcher du roi avec les plats.
Et est-ce que les choses changent à la mort de Henri II ? Qu'est-ce qui se passe pour Pétrus à ce moment-là ?
Alors à la mort de Henri II, ce qui va se passer, c'est que son épouse, la reine Catherine de Médicis, a moins d'affection que n'en avait Henri II pour Pedro González. Donc elle va un petit peu le délaisser. Alors ça, on s'en rend compte parce qu'il y a des éléments de comptabilité qui montrent qu'on réserve une part des finances pour ses vêtements, pour son alimentation, etc. Et disons qu'il est relégué un petit peu au second rang avec la mort d'Henri II. Alors, selon les sources, les historiens sont encore ne s'accordent pas forcément là-dessus. Certains disent qu'il serait resté encore 40 ans en France, jusqu'à la mort de Catherine de Médicis. D'autres disent qu'il a été recueilli par Marguerite d'Autriche et qu'il est donc allé vers les Pays-Bas, puisqu'elle gouvernait les Pays-Bas. On a une incertitude là-dessus. On sait cependant qu'il a été marié. Je dis bien, il a été marié. D'autres que lui ont organisé son mariage en 1573 avec une femme glabre. Et il a eu de ce mariage plusieurs enfants velus. C'est assez intéressant parce que le fait de le marier montre que déjà, il est bel et bien considéré comme un être humain. Et puis deuxièmement, qu'il y a peut-être de la part de ceux qui organisent ce mariage une volonté de faire un essai pour voir si, oui ou non, les enfants qui naîtront de cette union seront velus ou pas. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que bon, certains naissent velus, pas d'autres. Le mariage donne lieu à une sorte de reproduction des curiosités velues. Pedro n'est plus un exemplaire unique à partir du moment où il a des enfants. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose au sens où tout à coup, il n'y a pas une seule merveille, mais il y en a beaucoup. Et puis Pedro, c'est pas qu'il va passer au second plan, mais il va être un tout petit peu, il va avoir son propre destin et puis ses enfants vont suivre aussi leur propre destin, en fait. On a comme fabriqué des merveilles et puis elles vont avoir un destin de merveille alors qu'elles, elles sont nées en Europe. On sait bien que Pedro, sa particularité, c'était d'être né dans les îles Canaries, donc d'être d'une certaine manière exotique. Ses enfants ne le sont pas au même titre, mais pour autant, ils vont quand même être considérés en tant que famille, comme les descendants de l'homme exotique, etc. Donc ils ont un surcroît de merveilleux, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a quand même cette recherche expérimentale de qu'est-ce qui va sortir de ça, qui nous paraît absolument monstrueux aujourd'hui, mais qui est très probablement un effet recherché à cette époque-là. Et ce qui sort, c'est cet enfant dont une partie sont atteints d'hypertrichose et une partie pas.
Mary Wisner-Hanks, vous êtes historienne et vous avez consacré un livre à la famille González. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il souffre exactement, cette pilosité qu'on appelle aussi l'hypertrichose, de quoi s'agit-il ?
C'est une maladie extrêmement rare, c'est une anomalie génétique. Tout est une question de gènes et pas de malédiction divine. Cette maladie est extrêmement rare. Il y a moins de 100 cas enregistrés dans toute l'histoire. Donc cette famille représente 10% de l'ensemble des cas enregistrés dans le monde entier. Il y en a en Thaïlande, au Mexique, et la fascination suscitée est la même à chaque fois. Mais il n'y a rien de particulier à part cette pilosité excessive. Il n'y a pas de répercussion sur le fonctionnement du cerveau, sur l'espérance de vie. Les personnes avec cette pilosité excessive, vivent des vies tout à fait normales. Il n'y a pas de remède à apporter. Cette condition a toujours suscité la fascination. En effet, je pense que toutes les cultures sont fascinées par les poils, par les cheveux, par la pilosité. La pilosité revêt une importance culturelle essentielle, encore aujourd'hui, pas seulement au XVIe siècle.
Quel sens vous donneriez au mariage entre Pétrus et Catherine, Denis Crouzet ?
Catherine de Médicis, un rêve donc de concorde face à la montée en puissance de la division religieuse dans le royaume qui s'accélère sous le règne d'Henri II. Pour Catherine de Médicis, confrontée à la crispation des lignages nobiliaires entre catholiques et protestants et confrontée surtout aux violences. Il y a trois guerres de religion jusqu'à la Saint-Barthélemy et ce sont des guerres sanglantes. Et Catherine de Médicis, hantée sans doute par un rêve de concorde, d'union des cœurs, c'est ce que signifie concorde. Et alors qu'est-ce que signifie ce mariage ? Il y a des mariages qui se produisent deux ans après et qui sont voulus par Catherine de Médicis entre une princesse catholique et une princesse protestante, mais surtout le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, le prince, celui qui devient roi de Navarre après la mort de sa mère Jeanne d'Albret. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que Catherine de Médicis voulait incarner dans ses mariages ? Une sorte la concorde, c'est-à-dire que dans le cadre d'un couple, il y avait une possibilité de vivre chacun dans son identité religieuse sans que ça tourne au désastre que sont les guerres civiles. Et peut-être que là, ce mariage est aussi, encore une fois, symbolique de ce qui est donné comme pour être perçu comme monstrueux, ne l'est pas, et que l'amour entre deux êtres traduit l'humanité de celui qui est venu, envoyé par l'empereur, comme appartenant au Mirabilia, donc appartenant à des excroissances de la nature, dont on ne sait pas si elles sont voulues par Dieu, ou si elles relèvent d'une intentionnalité supérieure. Ce personnage, partant d'une non-humanité, si vous voulez, et qui devient plus humain que les humains, en quelque sorte, et qui pourrait expliquer pourquoi il entoure le roi, il est mis en contact avec lui de manière privilégiée, il reçoit des dons, et finalement, on l'envoie à l'université de Poitiers pour obtenir le plus haut grade du système universitaire, un doctorat. Il y a une sorte de talisman à la cour.
On est en 1589 et Catherine de Médicis meurt. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les Gonzalvus ?
La mort de la protectrice, la mort du roi Henri III qui, semble-t-il, n'avait jamais manifesté un grand intérêt à l'égard de celui qui maintenant était docteur en droit canon. Donc, nécessité d'aller ailleurs, mais avant, il y a un voyage, on les voit prendre tout de même une certaine autonomie, un voyage en 1582-83 où ils se rendent à Bâle, par exemple, à Zurich. À Bâle, ils rencontrent le médecin Félix Plater, grand spécialiste certes de botanique des yeux, mais qui aussi, dans ses notationes, exprimer le fait que les monstres sont naturels dans l'ordre de la création, ce ne sont pas des exceptions, ils font partie de l'univers humain. Et donc, on voit, il n'y a pas toute la famille, mais avec sa femme, c'est là où ils vont être aussi reçus dans plusieurs villes et où ils vont rencontrer des savants qui vont les voir réagir très différemment selon. Mais la normalité, c'est le voyage, là encore, vers la Suisse, puis vers l'Italie, quand certains sont rattachés à des cours, sans doute en don, parce que c'est pas le... Je pense que Henri de Navarre et Henri IV n'a pas un grand intérêt, là, pour le système symbolique qui les entoure.
Je vis ici, à Bâle, en 1583. La mère et les enfants, un garçon de 9 ans et une fille de 7 ans, alors qu'ils faisaient route vers l'Italie et je pris soin de faire exécuter leur portrait. Ils avaient le visage très velu, plus pour le garçon, un peu moins pour la fille, mais celle-ci était extrêmement velue dans la région dorsale, tout au long de sa colonne vertébrale, hérissée de poils extrêmement abondants. Félix Plater, Observationum, 1614.
Aujourd'hui, on parlerait d'hypertrichose. Qu'en disent les médecins à l'époque? Quelles vont être les remarques qui sont faites sur lui et ses enfants?
Pedro González et ses enfants sont vus par deux médecins très importants de l'époque. Ce sont vraiment des sommités dans leur champ d'expertise. Le premier médecin, c'est un dénommé Félix Plater, qui exerce à Bâle, en Suisse, et qui rencontre cette famille velue en 1591, au moment où ils sont cédés à des ducs italiens et où, en fait, ils voyagent des Pays-Bas ou de France vers l'Italie. Ils vont passer par Bâle. À ce moment-là, Félix Plater insiste, parce qu'il a entendu parler, bien sûr, de tout cela. Il insiste, ça fait déjà, disons, 40 ans, en fait, qu'on parle de ces hommes velus. Donc, il saisit l'opportunité de les ausculter. Et puis ensuite, il y aura Ulysse Aldrovandi à Bologne qui les voit en 1594 ou 95, et qui également va leur demander de soulever leurs vêtements pour pouvoir voir comment la pilosité est répartie sur le reste du corps. Parce que c'est vrai qu'on voit le visage et c'est déjà très impressionnant. Donc les deux médecins font cette remarque en disant c'est absolument incroyable de voir autant de sourcils hein, qui envahissent le front entier, à tel point qu'en fait il faut relever les poils pour voir ses yeux, littéralement. Ce qui interroge beaucoup les médecins, c'est que bon, une pilosité sur un visage masculin, ça peut s'entendre, même une pilosité très très abondante, mais une pilosité sur un visage féminin, c'est quand même beaucoup plus rare. Et surtout quand cette pilosité n'est pas seulement sur la partie, disons, barbe, le bas du visage, mais sur l'entièreté du visage, l'intégralité du visage, et y compris ce que remarquent aussi les deux médecins, c'est qu'il y a des poils hirsutes à la base du dos, dont ils vont détailler la couleur, ils disent qu'il est plus jaune sur la base du dos, etc. Donc il y a vraiment une recherche de compréhension, de description au plus près de cette pilosité étonnante. Et ce qui les interroge, c'est de savoir si est-ce que cette famille velue correspond à ce qu'on se représente à l'époque, à savoir l'homme sauvage, l'Homo sylvestris, très connu et très renommé à l'époque médiévale comme étant en fait une sorte d'homme des bois, un peu animalisé, c'est-à-dire vivant dans la nature, totalement en marge de l'humanité et étant en général recouvert de poils et armé d'un gourdin, généralement allant tout nu. C'est-à-dire ça n'est pas du tout l'image qu'on a des González. Sauf qu'ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que les González... Enfin, en général, l'Homo sylvestris... Du Moyen-Âge, il n'était jamais représenté avec du poil sur le visage, mais avec du poil partout sur le corps, comme une bête, comme un loup ou un ours. Ici, la difficulté, c'est qu'il y a du poil sur le visage, mais pas forcément partout sur le reste du corps. Et puis que par ailleurs, ben, ils n'ont pas du tout des mœurs de sauvages, quoi. Ils ne se promènent pas tout nus avec un gourdin, ils sont au contraire très éduqués, très polissés. Et donc, on a là des contrastes, une sorte de dualité, d'alliance de contraires. Hein. Ils ont l'air sauvages, mais ils ne sont pas sauvages. C'est très étrange. Alors, les médecins cherchent à les décrire, et effectivement, ils tombent face à un certain nombre d'énigmes, mais ils vont essayer, au moins, d'en faire la description objective.
C'était les Gonsalvus, Splendeur et misère du poil. Épisode 1,
Le Sauvage d'Henri II. Merci à Bastien Lopez, Myriam Marage-Gourou, Denis Crouzet, Denis Bruna et Mary Wisner-Hanks. Si vous voulez connaître le destin des enfants de Pétrus et Catherine, écoutez l'épisode 2.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
France Culture.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale. Chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre proposent « En lisant, en écrivant » un cycle de rencontres littéraires. Mardi 17 juin, 18h30, entrez dans les coulisses de la création avec Emily Boom, romancière camerounaise, reconnue pour ses récits puissants sur la mémoire, l'identité et les luttes féminines en Afrique. Une masterclass animée par Julie Gacon à la Bibliothèque François Mitterrand à Paris. Entrée gratuite sur inscription. Plus d'infos, franceculture.fr. France Culture. Il est l'heure de votre séance cinéma. Antoine Guillot.